Alors parce que le mouvement général, évidemment, on ne peut pas imaginer que notre rapport à la Terre, à la Terre mère, parle de la Terre planète, bien sûr, il y a aussi la Terre mère, celle qui nous nourrit. Nourrit qui nous permet d'être ici ce soir et qui est la Terre mère, ce n'est pas un euphémisme, c'est une réalité. Et bien cette Terre, elle a subi aussi les assauts de la modernité en transposant l'esprit industriel vers la Terre. C'est-à-dire qu'on a supprimé les paysans. Les paysans dans le sens celui qui est tenu par le pays, qui tient le pays. C'est-à-dire ces intendants paysans qui, depuis des millénaires, suite à, disons, à cette révolution agraire, pastorale, étaient dans un rapport sensible à la terre qui les nourrissait, même s'ils ne l'appropriaient pas, même s'il y avait de l'empirisme, il n'y avait pas forcément des connaissances définies, mais les connaissances étaient là, et d'expérience, et que ce rapport à la terre qui nous nourrit, proche de la source qui nous nourrit directement, eh bien, forcément, on devait composer avec et on devait la comprendre. D'où toute une science paysanne. J'ai lu beaucoup d'ouvrages, pour l'occasion par exemple, le pied de serre, ou toutes sortes de paysans qui avaient la science véritable de la paysannerie, c'est-à-dire cette agronomie. Peut-être empirique, mais cette agronomie qui était liée à une connaissance réelle de ce que veut dire une terre nourricière. Alors je pourrais vous dire un nom sur ces questions-là, mais en tout cas, il y avait cette civilisation bouleversée par la civilisation dite moderne. Bien la Terre, comme on était dans le contexte d'un tas d'évolutions scientifiques, de recherches, etc. Et parmi les chercheurs, il y avait des scientifiques honnêtes, on cite souvent par exemple Justus von Liebig, qui faisait de la chimie organique, et qui un jour se pose la question, avec d'autres, comment est-ce qu'une terre s'est fertile? Eh bien, pour comprendre, il met en place un protocole particulier, c'est-à-dire on prélève des plantes, on les brûle, on analyse les cendres, et en analysant les cendres, on trouve NPKCO. Et on se dit, finalement, ces substances, qui sont bien sûr les nitrates, le phosphore, le potassium et le calcium, si on la trouve dans la plante, ça veut dire que les plantes l'ont prélevée au sol. Et donc, elle a appauvri, la plante a appauvri le sol en ces substances qu'elle a prélevées. Donc, au fond, l'agronomie de la restitution minérale, et où on va amener, sous forme de substances élaborées, ces substances qui manquent au sol. Seulement le phosphore, par exemple, et les nitrates n'étaient pas destinés au départ, ça a une grande symbolique, pas du tout à l'agriculture, c'était pour les armements. On avait besoin de nitrates pour remplacer les salpêtres, faire des bombes, il y a des bombes à phosphore, etc. Et donc, M. Liebig et d'autres font leurs expériences avec les protocoles. Voilà, là, dans cette parcelle, c'est exactement les mêmes cultures, la même terre, dans une parcelle, je mets ces substances, et dans l'autre parcelle, je mets d'autres substances, ou je mets autre chose. Et voilà que là où j'ai mis les substances, ça pousse mieux, à l'évidence. Et même, on s'amuse à faire des dessins dans les champs, dans ces substances, et là où on a mis ces substances, ça pousse. Seulement, ces substances, elles ont un effet osmotique. Là, quand on les met dans le sol, la plante les absorbe. Et en les absorbant, eh bien, obligatoirement, s'il faut de l'eau, eh bien, à ce moment-là, il y a un effet de barrage concernant ce qu'on appelle les oligo-éléments. Quand une plante pousse naturellement, ou pousse dans des conditions naturelles, comme le fond, la biodynamie, la culture biologique, eh bien la plante, il faut pas s'occuper de la plante, il faut s'occuper du sol. C'est le sol qu'il faut nourrir, qu'il faut équilibrer. Et quand un sol est équilibré, il est pourvu des substances qui lui sont nécessaires, ben qu'est-ce que fait la plante? La plante, elle va choisir elle-même, elle va faire l'effort d'émettre un sucre particulier, et ce sucre, en général acide, va solubiliser les alors on va choisir les éléments nutritifs comme nous-mêmes, chacun de nous, peut choisir son menu. Dire voilà, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, je prends ça et je fais mon menu. Donc la plante, spontanément, elle fait son propre menu en prélevant les substances qui lui sont nécessaires, en faisant l'effort de les solubiliser. Quand vous vous amenez de l'arbre chimique, eh bien la plante n'a même plus le choix, parce que ils ont des effets osmotiques, pas de la barrière cellulaire végétale, force la plante. Et la plante se gorge de ces plantes, de ces substances, et elle est donc appauvrie en micro-éléments qui sont indispensables à son équilibre. Et elle est malade. Et étant malade, eh bien, les champignons se mettent, les insectes arrivent, et la plante est malade, donc à ce moment-là, on va chercher des pesticides. Là, on met des pesticides, on prend des pesticides, mais sans se poser la question sur qu'est-ce qui est à l'origine de la pathologie. L'origine de la pathologie, c'est très souvent mauvais choix de variété, des variétés fragiles, un sol mal pourvu en substances nutritives, parce qu'un sol, la terre, l'air, c'est un organisme à part entière. C'est un organisme très complexe. Un organisme à part entière, vraiment. Et il y a un processus, si vous voulez, qui a été établi dans la vie, c'est tout ce qui est, tout ce que la vie est. Vous avez la terre, bien sûr, la terre nourricière, qui représente à peu près 20 à 27 cm répartis sur 10% des continents émergés. Je veux parler de la terre, on cultive la terre, donc elle a pas beaucoup. Et on est en train de l'éliminer à grande vitesse. Alors ces 20 cm, 27 répartis sur les continents émergés, dans ces 20 cm, il y a un élément qui est un élément clé, c'est-à-dire celui qui amène l'équilibre général et qui est issu d'une transformation alchimique des matières mortes, c'est ce qui se passe dans la forêt naturellement. En automne, l'automne prochain, dans les irées dans la forêt, ben, qu'est-ce qui se passe dans la forêt? Vous avez des feuilles mortes qui tombent au sol. Et sachez que ces feuilles mortes qui tombent au sol, elles vont rentrer dans un cycle. C'est-à-dire qu'elles vont se transformer par des micro-organismes, par des champignons, par l'eau, la chaleur, en fait, tout ça va, les éléments vont contribuer tous à dégrader, c'est-à-dire à déconstruire en quelque sorte ce qui a été construit. Et en déconstruisant cela, elles vont produire une matière brunâtre noirâtre. Et cette matière brunâtre noirâtre, petit à petit, va s'inclure dans la tête. C'est-à-dire que vous allez avoir le minéral et l'organique qui vont se combiner. Et ça va donner quoi? Ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Et là-dedans, il y a l'humus. Et l'humus est l'élément clé fondamental. Et l'humus est tellement important pour la vie de la Terre que on lui donne la même étymologie, humus, humanité, humilité, humilité, c'est pareil. Ça va même jusqu'à la symbolique, l'humilité. Et cette humilité, c'est quoi? Moi, en tant qu'agriculteur, je prends des déchets organiques, je prends le fumier de mes animaux, je prends de la paille et d'autres détritus, je prends des détritus, et ces détritus, je vais les transformer moi-même, comme un alchimiste, c'est-à-dire que je vais les mettre en condition de se transformer, et c'est ce que a amené royalement Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, qu'on le décrit, qu'on l'admire, personne ne pourra jamais nier qu'il a eu une compréhension fondamentale de ce qui est la vie d'un sol, ce qui est la vie de plein. Donc il y a non seulement cette transformation que vous allez amener de la matière organique que vous allez transformer, eh bien, vous allez faire un concentré de bactéries et un concentré de substances. Et ces substances, quand je les ai expérimentées dans les sols sahéliens qui étaient ravagés par la sécheresse, ils ont eu des effets miraculeux, à tel point que les gens couraient de partout pour dire, mais comment? Alors il y en avait, on disait, mais c'est pas vrai, c'est pas les mêmes semences que vous avez utilisées, mais si, c'est exactement comme vous, seulement nous, on ne se contente pas de mettre des substances chimiques dans le sol, et petit à petit, on lui donne sa vitalité. Et pour lui donner sa vitalité, eh bien, on va amener une matière noble qui est hyperactive et qui va enfoncer le sol de ferments bactériens dont il a besoin. C'est comme nous, quand on a été traité aujourd'hui de type, on voyait des sols sahéliens par exemple, qui subissent des rayonnements solaires tellement violents, sont stérilisés sur 30, 40, 50 cm par la chaleur. Ils sont comme pasteurisés. Vous versez de l'eau, vous avez de la vapeur qui monte à partir du sol, donc tout est pasteurisé. Ce qui fait que les bactéries ont disparu. Et qu'est-ce que doit faire le bon agriculteur? Il va ramener ces bactéries, comme le médecin vous dit, manger des yaourts, des levures, etc. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'humus apporte la vie. Et quand vous avez vu cet humus, on obtient des miracles. Absolument des miracles de la vitalité du sol étant remise en route, eh bien, on devient des gens qui sont capables de devenir des guérisseurs, des médecins de la vie. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas des théories générales, puisque nous l'avons appliqué sur notre petite ferme du sud de l'Ardèche. Nous vivons depuis 45 ans maintenant sur une petite ferme du sud de l'Ardèche, dont personne ne voulait, parce qu'elle était rocailleuse, parce qu'au départ, même les crédits agricoles ne voulaient pas nous prêter 15 000 francs pour acheter ce lieu. Évidemment, quand j'ai fait la description, ils me disent, bon, ben, à l'époque, il y avait des tas de fermes disponibles. Et alors, moi, tout ce que j'ai trouvé après avoir été ouvrier agricole pendant 3 ans et avoir acquis un petit diplôme agricole pour pouvoir présenter un dossier recevable par le crédit agricole, moi, je dis, ben, le crédit agricole me dit, nous, on peut bien vous prêter, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, dites-nous ce que vous voulez. Je demande 15 000 francs, mais comment ça se fait que vous demandez si c'est pas ben, parce que vous voyez, ma ferme, j'ai trouvé une ferme qui me plaît beaucoup, mais voilà. Voilà, il y a plus de cailloux que de terre. Vous êtes fou, pourquoi? Et alors, ben, je suis obligé de dire, ben, il n'y a pas d'électricité. Ça fait 13 ans, depuis 13 ans sans électricité. Et l'eau, ben, c'est 30 mètres cubes par an, connectée dans des gourdes, c'est-à-dire dans des espèces de poches d'eau. Et évidemment, aucun attribut moderne. Pas de téléphone, la route à peine praticable parfois non plus parce que ça monte. Et c'est là que le boulot est installé. Et les gens du crédit agricole me disent, mais non, nous on préfère vous prêter. On ne va pas vous aider à vous suicider. Nous préférons vous prêter 400 000 francs et vous installer, ils avaient un listing de fermes disponibles à l'époque parce qu'il y avait énormément de choses honorables. On préfère vous prêter 400 000 francs et vous installer sur une ferme où vous allez gagner de l'argent. Et moi, stupidement, je réponds, monsieur, c'est pas l'argent qui m'intéresse, qu'il ne faut jamais dire dans une agence d'une chrétienne. Ça m'a échappé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es bête, tu viens de fusiller ton dossier. C'est pas que je n'avais pas besoin d'argent, c'est qu'en fait, quand je vous disais tout à l'heure, le Saint-Rand-Sébel ou la reconquête du son, c'est-à-dire que quand nous avons voulu quitter la ville de Paris où nous vivions, et que ça ne nous intéressait absolument pas de vivre dans Paris, mais que nous voulions reconquérir notre liberté à travers un retour à la terre, etc., etc. Le choix n'était pas simplement sur les critères agronomiques, parce que je me fichais littéralement de faire de l'agronomie. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver un espace, un temps différent dans lequel je retrouve une liberté et dans lequel je suis proche de la nature et en faire profiter mes enfants. C'était ça. Et que deux, chez les six, bien sûr, dans la même démarche. Mais quand vous êtes dans un lieu qui est beau, où il y a un silence magnifique, où vous avez un paysage magnifique, et où vous avez de l'air pur, vous avez cette sérénité extraordinaire, ben, vous vous dites que ça c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui a pesé le plus lourd dans notre choix? C'est ces critères immatériels. Et donc, si nous avons. Nous avons ce bonheur d'être dans ce silence, dans ce paysage magnifique, vous voyez 17 clochers chez nous, etc. Et si on a le bonheur d'être là, on aura le courage de confronter, de s'affronter aux questions matérielles. Et c'est ce qui s'est passé. Et alors, à force de la mise en place d'un vache cher, production de lait, vente des fromages au marché, travailler la terre avec gratter la terre parce qu'elle était très aride, amener des composts, transformer, et maintenant, il nous reste. mais ça demandait du temps. Alors, du coup, ce choix-là ça nous a amené à ensuite à transposer les choses en Afrique ou ailleurs. Et pour ce qui concerne, pour revenir à l'affaire, l'affaire organisme vivant. Quand vous prenez une semence, d'abord, pour moi, c'est un voyage initiatique. Faites l'expérience de prendre une graine, d'un légume, de n'importe quoi. Je vous conseille la graine d'amarant parce qu'elle est tellement petite qu'elle est très très petite. Eh bien, dans cette graine-là, vous avez tout un programme. C'est-à-dire, si on parle de puce, vous savez, c'est une puce dans laquelle il y a un programme. Et si c'est une graine de tomate, c'est une graine de tomate. Une graine d'aubergine, c'est une graine d'aubergine. Et dans un grain de blé, il y a la possibilité de nourrir l'humanité tout entière. C'est-à-dire, il y a là une puissance dans la multiplication qui est extraordinaire. Alors on se demande, mais pourquoi, avec un seul grain de blé, on pourrait nourrir l'humanité, pourquoi ne le fait-on pas? Parce que ce n'est pas la nature qui est fautive. Quand on dit l'Afrique, c'est pauvre, non, l'Afrique, c'est riche. Immensément. Elle représente 10 fois la superficie de l'Inde avec seulement 900 millions d'habitants. Et donc, elle est sous-peuplée quelque part. Eh bien, c'est pas la puissance de la nature est là, mais l'homme, dans la façon dont il gère et faire partie de cette nature, est erroné, égoïste, etc. Donc, on aboutit à quelque chose, malgré les ressources considérables de la planète, on n'arrive pas à répondre à ce problème majeur et absolument urgent qui est de permettre à chaque être humain d'accéder à la nourriture, à l'eau potable, aux soins, à l'histoire, etc. Donc il y a une énorme défaillance, si vous voulez, de l'ensemble de notre système. Et la graine est prête à produire. Vous prenez la graine, c'est un ovule. Cet ovule, vous le mettez dans la terre mère. Et c'est pas une métaphore pour moi, parce que c'est comme le sein, comme un sein maternel dans lequel vous mettez la graine, et la graine va être couvée si les conditions sont là, la chaleur, l'humidité, l'air, etc. La terre va couver cette graine, et bien elle va émettre ses premiers cotylédones en prenant les substances qu'elle a déjà elle-même stockées par avance pour le rebondissement de la vie. Ensuite, ça va lui laisser du temps d'aller émettre ses racines, de prélever les substances, comme vous le disiez tout à l'heure, elle va émerger du sol, et en émergeant du sol, elle va faire appel aux énergies cosmiques, au soleil, c'est évident, la lune, c'est évident, et Rudolf Steiner en particulier en met en évidence que tout ce monde-là est vibratoire, c'est-à-dire que l'univers est entièrement vibratoire, et ces vibrations sont des vibrations énergisantes. C'est pour ça qu'il a fondé la biodynamique, il n'a pas seulement fondé la bio simplement, mais dynamique, l'énergie. Et quand vous avez une plante donc, qui a poussé dans ces conditions, une terre saine, pourvue des substances qui lui sont nécessaires, qui ensuite va rentrer dans le monde vibratoire, à travers l'ensoleillement, la chaleur, etc., où tous les éléments sont omniprésents, comme ils sont omniprésents, comme ils sont constitutifs de nous-mêmes. Il y a un petit moment, j'espère que vous en avez pas trop, il y a 70 à 80% de flottes qui sont en train de vibrer. Je dirais que ça n'est pas quoi. C'est de l'eau qui nous éclaire. Alors très souvent, quand on prend par exemple les éléments l'eau, on perçoit les choses extérieures à nous, alors qu'on nous dit que nous sommes eau nous-mêmes, que nous sommes chaleur, si on ne vous refroidit pas. Continue à être la chaleur. Nous sommes matière terrestre. Nous sommes air. Et il y a une restriction par rapport à la nourriture. On croit que la nourriture, c'est simplement ce qui vient de la terre. Mais c'est aussi l'eau qui est nourriture. L'air est nourriture. Et puis, bien sûr, la nourriture qui vient de la terre. Cette terre-mère qui a mis des années, puisque l'élément dernier, qui est venu dans l'avènement par rapport aux autres éléments, elle s'est constituée tout doucement à travers le millénaire, grâce aux autres éléments. Et nous avons donc cette terre nourricière qui est prête à accueillir, si elle est bien traitée, elle est prête à accueillir des semences, à les transformer, à les faire. humain relié avec l'ensemble des éléments. Et là, on est dans le principe de la vie elle-même dans lequel nous sommes nous-mêmes inclus en tant qu'élément. Mais nous avons cette tendance mentale à nous mettre toujours de côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peu de gens, beaucoup de gens, même les scientifiques, parce qu'en tout cas, je suis étonné de l'ignorance qu'ont les gens par rapport à la Terre, mère qui les nourrit. Quand je fais des tests, c'est étonnant. Les gens ignorent. Ils ignorent, en fait, ce que représente l'élément qui leur permet de survivre. Donc c'est quand même grave. Alors on a résolu, à force d'aller dans ce système de productivité et une perception industrielle de la Terre, on a tout industrialisé, ce qui fait que la nourriture aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut produire en abondance avec des substances, mais au détriment de la vitalité des sols, des nappes phréatiques, etc. Donc on est dans une agriculture qui ne peut produire sans nutriments. Et on arrive aujourd'hui, d'abord, avec une famine universelle qui est en train de se préparer, que peu de gens sont conscients, du côté de laquelle la crise financière va paraître vraiment inévitable. Et c'est en train de prendre une ampleur, et je vous expliquerai rapidement les paramètres qui interviennent. Et par ailleurs, on produit une nourriture qui est de plus en plus toxique.
Vous
avez
la partie ?
Bonsoir, je fais deux de son tour. J'ai plus le micro. Oh non !
Non, j'ai peur de vous ennuyer. Bon, rassurez-moi parce que. Et donc, la nourriture aujourd'hui, il est mis en évidence le fait qu'elle est dénaturée. Et par le fait qu'elle est dénaturée, elle véhicule des nuisances. Mais quelles nuisances portent atteinte à la vitalité. Et on est dans le paradoxe, c'est-à-dire la nourriture qui doit entretenir la santé est en train de la détruire. On ne peut pas aller plus loin dans l'aberration. Ce qui fait que la nourriture véhicule tellement de nuisances que quand on s'invitera, il faudra désormais plutôt de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. C'est même. Il faut que nous prenions conscience de tout ça. Il faut que nous prenions conscience qu'on ne peut pas donner à ses enfants n'importe quoi. Que la nourriture entretient la santé et qu'il faut que l'eau soit de qualité, que la nourriture soit de qualité, l'air aussi doit être de qualité, puisque tout cela contribue à rendre tout ce qui peut porter le vocable de nourriture, c'est ce qui entretient la vie. Et tout ce qui entretient la vie, c'est nourriture. Et évidemment, nous avons des nourritures aussi matérielles. Nous avons besoin, nous avons notre vie émotionnelle, nous avons notre vie la vie d'esprit, notre besoin de beauté, d'esthétique, tout ça, c'est des nourritures. Nourriture, ce n'est pas seulement ce qu'on trouve sur les tables du marchand, c'est tout cela. Ben, tout cela est atteint. L'air est pollué, l'eau est polluée, la nourriture est polluée, le stress, les émotions, tout ça dysfonctionne, il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, et beaucoup d'incertitudes, et tout ça place l'être humain dans une situation qui est vraiment d'être favorable. Donc tout cela nous amène à dire, finalement, la Terre aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une amplification de plus en plus importante du déficit alimentaire mondial par le fait même que les sols sont de plus en plus détruits, sont soumis à des érosions de plus en plus violentes, qui sont dénudés. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Maroc, les Marocains étaient très contents en disant « qu'est-ce qu'il a plu cette année, c'est magnifique !» Et je leur ai dit, vous avez vu les ruisseaux, la terre qui s'en va par l'érosion, parce qu'il ne faut pas se réjouir d'avoir des grosses pluies, parce que ces grosses pluies remportent la terre. Donc la terre aujourd'hui, on a fait même des mesures dans les zones sahéliennes, on fait des coupes pédologiques pour voir la quantité de terre qui partait, c'est incroyable. Tous les ans, il y a des grandes quantités de terre qui partent à jamais. En Beauce, Brésil, les meilleures terres de l'Europe sont très mal menées. J'ai des amis qui travaillent à l'Irak qui ont dit qu'en Beauce, ils ne peuvent plus laisser le chaume parce que le chaume n'est plus dégradé et transformé par les micro-organismes qui devraient être présents bien à l'avenir. Donc ils sont obligés de récupérer les chaumes pour pouvoir utiliser la terre et l'or. s'appelle traitement thermique. Vous avez des phénomènes d'eutrophisation dans les rivières, hors de mer, etc., c'est-à-dire par des nitrates qui contribuent à l'augmentation de prolifération nuisible d'algues, etc. Et sinon, depuis les 10 à 12 000 ans, ce qu'on appelle la révolution néolithique, le genre humain a cessé d'accumuler des semences et des variétés. On prélève dans le sauvage, on transforme et on domestique et on adapte à notre alimentation. Et ça a été prodigieux, la quantité de semences que les êtres humains ont produit, se sont échangés. Rien que quand on a découvert l'Amérique, on ne connaissait pas ni la pomme de terre, ni la tomate, ni le maïs, etc. Les listes longues de tout ça. Il y avait une forme de mutualisation en quelque sorte de toutes ces potentialités alimentaires et qui se répartissaient sur la planète et les êtres humains, tout en se faisant beaucoup de mal. C'était souvent à l'occasion d'expéditions guerrières pour ramener des semences, des boutures, etc. Eh bien, malgré tout, il y a 60% de ce potentiel a déjà disparu. Il y a ici, voilà, un conservatoire, je suis vice-président de Cocopédie, on essaye de faire ce qu'on peut, il y a d'autres semenciers qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais ça a disparu. Les paysans, il n'y a plus. Il y a de plus en plus d'exploitants agricoles, d'industriels de la terre, mais où est le paysan? Ils sont en train de disparaître. Il y a une urbanisation énorme, c'est-à-dire la concentration des gens dans les villes. Et on a beau être dans la ville, si on est dans la ville, on a besoin de manger quand même. Alors le déséquilibre est en train d'arriver entre des concentrations considérables de gens dans les villes et très peu de producteurs agricoles. Et les gens dans les villes, il faut les nourrir. Donc ils ne participent pas à la production de leur nourriture. D'où un énorme déséquilibre qui est en train d'arriver. Il y a l'histoire des OGM, grande imposture qui va accélérer le processus d'élimination des semences vivantes. On a déjà beaucoup fait par hybridation, ça veut dénaturer la semence à reproduction naturelle de génération en génération sans aucune manipulation des situations au profit d'une hybridation qui en fait s'approprie de plus en plus la semence et si vous évitez les OGM sous prétexte OGM, il faut mettre OGM, c'est-à-dire OGM, organisme génétiquement modifié et breveté. J'avais oublié le brevetage, parce que c'est le brevetage qui donne droit à la mainmise sur le vivant. Et on prétend que c'est avec ça qu'on va sauver le tiers-monde. Alors on propose au tiers-monde une semence non reproductible qui est obligée d'acheter tous les ans, et sous le prétexte que c'est avec ça qu'on va le sauver. Or, les gens du tiers-monde n'ont pas d'argent. Et récemment, il y a eu une initiative internationale pour venir au secours des urbains qui n'avaient pas accès à la nourriture en proposant de l'alimentation à très bas prix. Ben même à très bas prix, il y a des gens qui n'ont pas le moyen d'accéder à la nourriture. Donc c'est en train de... Et alors, vous avez une migration dans les pays du tiers-monde qui est fantastique. Concentration urbaine extrêmement importante. Le stock mondial d'alimentation aujourd'hui n'est plus constitué comme un stock de secours auquel on a recours quand il y a pénurie quelque part ou déficit de production. On est dans le flux tendu, c'est-à-dire qu'on ne veut plus stocker parce que le stockage coûte cher. Et alors après, on fait donc des représentations, figurations. D'ailleurs, on dit quels sont les pays qui sont solvables, c'est-à-dire ceux à qui, pour qui on pourra faire de la semence, des produits qu'ils peuvent acheter. Et ceux qui ne peuvent pas acheter, ben, tant pis pour eux. Et mon propre pays, Algérie, d'origine, ont une politique complètement stupide. C'est-à-dire qu'ils importent plus de 80% de leur nourriture en ayant des sols. Parfois magnifique, ils en ont beaucoup abîmé. Alors ils comptent sur quoi? Ils comptent sur les pétrodollars. Ils ont du gaz, ils ont du pétrole. Donc ils se disent, ben nous, on a la sécurité, on achète sur le marché. Seulement, ils ont le droit d'avoir des dollars, s'il n'y a rien à vendre sur le marché, eh bien, vos dollars, vous n'avez plus de manger vos dollars, peut-être vos dollars. Donc, c'est une politique absolument ahurissante, stupide et complètement irresponsable de certains pays qui comptent sur l'argent pour s'alimenter au détriment de la mise en route de leur potentialité alimentaire. Vous avez un facteur aujourd'hui qui est absolument prévisible et personne ne peut le dire. Moi, je ne pense pas que c'est difficile. On a déjà vu les résultats négatifs, si vous voulez, les changements climatiques. Aujourd'hui, là, je reviens au Maroc, et bien, il y a eu toute une zone marocaine, l'excès d'eau a détruit la récolte. D'un autre côté, la sécheresse qui détruit la récolte. Et rien n'est prévisible. On peut parfaitement imaginer la France un jour sous une sécheresse absolument sans précédent. Rien, aujourd'hui, il y a une telle, disons, caprice, parce qu'il y a des ajustements nouveaux, il y a peut-être des perturbations nouvelles, il y a des ajustements écologiques nouveaux, qu'on ne sait absolument pas ce qui va se produire demain. Le parasitisme, personne ne peut savoir si un jour il ne peut pas y avoir un parasitisme absolument inattendu. Donc si vous avez comme ça tous ces éléments-là, le transport, aujourd'hui la France, il faudrait faire le calcul de ce qu'elle produit par rapport à ce qu'elle importe, et certains pays importants en beaucoup plus que la France, vous voyez que la population vit aujourd'hui du transport. Et on gaspille de plus en plus d'énergie pour transporter la nourriture, alors vous allez acheter dans un supermarché, je ne sais pas quel aliment qui aura fait 2000 ou 3000 km, parfois hors saison en plus, si vous voulez qu'il y a. Et puis, alors qu'il pourrait être produit à 100 mètres. D'où des fous. La nourriture ne doit pas voyager. Il ne doit voyager que ce qui est la rareté, ce qui est échangeable en termes de rareté, et non pas ce que l'on peut produire là où on est. Et chaque communauté humaine devrait relocaliser son économie et produire là où elle est. Sinon, les dépendants du transport, vous avez entendu parler de cette anecdote du camion de tomates qui quitte l'Espagne pour livrer la Hollande, un autre camion de tomates qui quitte la Hollande pour livrer en Espagne, et ils se sont percutés dans la même couronne, proche du tunnel de Fourvière. Donc vous avez les tomates en langue espagnole qui ont fait connaissance, mais ça mettait en évidence l'absurdité du système dans lequel nous sommes, et nous allons vers des pénuries alimentaires graves si nous ne prenons pas. Parce que tous ces producteurs de lait qui sont en difficulté, qui abandonnent, c'est autant de paysans qui abandonnent la production. Et en abandonnant la production, ben finalement, on réduit de plus en plus les producteurs, parce que la loi du marché, c'est pour ça que nous ne contentons pas simplement d'une analyse générale, nous créons des structures. Une structure qui s'appelle quand même l'analyse, qui est là pour former le pays, pour former les futurs agriculteurs, enfin, les futurs jardiniers, etc., en bio, avec le principe de l'agroécologie. Vous avez le monastère de Solan, qui est un monastère de femmes orthodoxes, qui a pris un domaine de 60 hectares, qui est transformé magnifiquement en lieu de production et un écosystème extraordinaire, qui est maintenant devenu vraiment exemplaire. Vous avez un site qui s'appelle les Amanins, dans la Drôme. Des amanins dans la Drôme, c'est un écosystème aussi dans lequel il y a à la fois de la production végétale, animale, il y a une école pour accueillir des enfants, enfin pour inscrire des enfants, une école primaire. Vous avez toutes les structures d'accueil architectural s'inspirant de ce qui est écologique. Tous les bâtiments, tout le lieu réunit toutes les alternatives possibles en matière d'énergie, en matière de... Il y a l'école, l'éducation, il y a l'agriculture, et c'est un lieu qui est destiné à accueillir jusqu'à 300 personnes pour créer un lieu d'induction, c'est-à-dire que quand vous séjournez là, vous avez tous les paramètres concernant une démarche globale écologique. Vous avez Macron Profil qui a créé une école Montessori il y a déjà 12 ans et puis qui est actuellement et qui a créé maintenant ce qu'on appelle le hameau d'aiguille. Vous pouvez aller sur Internet, vous trouverez le hameau d'aiguille, c'est-à-dire un lieu intergénérationnel. Il se trouve qu'à côté de chez nous, après que l'école ait été à Montchamp, il donc c'est notre contre-offert, il y a un mas à 10 minutes de chez nous qui était à vendre, Sophie a réuni des capitaux, ont acheté le mas qui comporte 6 hectares, donc 1 hectare constructible, et cet hectare constructible fait de nouveau un appel financier, ce qui fait que aujourd'hui, il y a la possibilité de créer une vingtaine d'habitats, tous écologiques, et la performance poussée à l'extrême, c'est-à-dire que ces habitats-là, pratiquement, n'auront pas besoin de chauffage. Paille, bois, terre, etc. Vous avez la bourrie. La bourrie, on a stoppé en quelque sorte un processus de mise en route de barrage pour proposer un nouvel écosite. Vous avez évidemment notre propre ferme. Et dans les pays du Sud, nous multiplions aussi les lieux, c'est-à-dire d'expérimentation, partant sur l'idée qu'il faut anticiper sur ce qui sera nécessaire demain. Et en particulier, nous assistons beaucoup sur la question de l'éducation des enfants, parce que ce seront les adultes de demain et qu'il faut maintenant expérimenter quelle éducation qui soit vraiment conforme d'abord à l'épanouissement de l'enfant lui-même et dans le contexte réel d'une société en grande mutation. Aujourd'hui, moi, mes enfants sont grands, mais aujourd'hui, je n'oserais pas leur dire, je ne l'ai d'ailleurs jamais fait, mais enfin, je n'oserais encore moins leur dire, si tu travailles bien, tu as un diplôme et tu as un boulot. Quel est celui qui peut dire ça à tes enfants? Il n'y a aucune garantie sur rien. Donc, on est dans un trouble absolument incroyable concernant l'avenir. Du coup, ça sollicite, ça interpelle notre intelligence réelle. Il ne pas rester dans ces schémas dans lesquels nous sommes prisonniers ces schémas qui se poursuivent et qu'on est toujours en train d'appliquer parce que les politiques sont incapables de fonctionner autrement que dans un schéma conventionnel. Ils ont appris, sortent des grandes écoles, etc. Ils ont appris à gérer la prospérité, mais quant à gérer la précarité, c'est difficile. Et aujourd'hui, il faudra bien se préparer, et demain, il faudra se préparer à dire qu'il sera impossible, si vous voulez, demain ne gérera pas chacun pour soi. Parce que quand on perçoit un salaire, etc., bon, ben, c'est ce qui a été pendant les 30 glorieuses, on percevait son salaire, et voilà, ma femme, ma voiture, ma résidence. Et aujourd'hui, la France, comme beaucoup de pays dans le monde, les États-Unis et partout, rentrent en précarité. Imaginez en France, par exemple, pas de RMI, pas d'emploi aidé, pas de stage qui mène à rien, etc. Imaginez aussi tout le secourisme social, c'est-à-dire la fête des carbones, c'est-à-dire le resto du cœur, Emmaüs, secours catholique, secours protestant, etc. La liste est longue, si vous voulez, du secourisme catholique, secourisme social, qui en fait masque la réalité d'une société qui est en précarité. Alors, on a la chance en France d'avoir mis en place des systèmes sociaux qui, bon an, mal an, permettent quand même de ne pas tomber dans ce que pour Obama était dans les États-Unis, c'est-à-dire une société radicale dans laquelle l'individu, ici, n'a pas d'argent, il n'est pris en charge par rien. Et déjà, il n'a plus d'or, il n'a plus, etc. Ils finissent leur jour comme ça. Nous avons encore ces... Mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, il va y avoir une prospérité qui permettra de répondre à tous ces besoins-là? Non. Donc, imaginez le futur. Imaginez le futur, beaucoup de gens me disent, est-ce que tu es optimiste ou tu es pessimiste? Je vais répondre à un autre, l'optimiste c'est un imbécile heureux et le pessimiste un imbécile triste. Je suis ni optimiste ni pessimiste. Il y a un fait réel qu'il faut analyser froidement et regarder froidement. Cette réalité est mise en évidence le fait que sur la planète, l'état des lieux n'est quand même pas bon. Mais à la fois, on a intégré deux choses. L'humanité continue à transgresser, le politique continue à s'acharner à faire vivre ce modèle. Et vous savez, quand on s'acharne à faire vivre le modèle, n'importe quoi, La scolement thérapeutique, le prétexte, c'est prolonger la vie. Mais en fait, on est en train de prolonger l'agonie. Et donc, pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas à un avenir qui serait basé sur des schémas différents. Et le politique ne peut pas imaginer d'autres schémas. Qu'est-ce que vous voulez qu'un énarque, enfin, très respectueux des individus, puisse imaginer? Il ne peut rien imaginer, mais il imagine dans un système qui est prédéterminé, dans lequel il y a une fonction précise, mais sortir du schéma pour imaginer, c'est-à-dire pour se projeter à travers ce qu'on appelle les utopies. Parce que l'utopie, on croit que c'est la chimère. Rien à voir avec la chimère. Heureusement qu'il y a des utopistes, parce que c'est des utopistes qui font avancer l'histoire et le monde. C'est certainement pas des gens qui restent bien sages dans le schéma. Jamais, sans utopie, Einstein n'aurait pas imaginé la gravitation universelle, etc. etc. Les utopistes aujourd'hui sont des gens qui disent, qui ont une intuition concernant ce qu'il faudrait faire, comment, dans quelle direction je prends, et après on vérifie, et très souvent, si les utopies d'aujourd'hui sont les solutions de demain. Donc, si on n'a pas d'utopie, on est bloqué. Et les utopies, la société civile en comporte beaucoup. Moi, je suis émerveillé parce que je donne beaucoup de conférences, je suis beaucoup dans le débat public, énormément, par l'écrit, par les médias, par tout ce que je peux. Et chaque fois, je suis émerveillé de voir tant de gens imaginer une autre éducation, une autre façon de se soigner, une autre façon de se nourrir, une autre façon d'utiliser l'énergie. Imaginer notre relation, c'est ce qui est le plus difficile, etc. Mais je trouve que la société civile est une espèce de vaste laboratoire dans lequel s'élaborent les solutions de demain. Seulement, encore faut-il que le politique soutienne et aide. Et lui, son rôle n'est pas d'aller dans le sens des aspirations de la société civile. Son rôle, c'est de maintenir un modèle envers et contre tout, et quelles que soient les conséquences. Donc, du coup, la société maintenant, nécessite, c'est ce que j'avais proposé lors de ma campagne électorale, qui en 3 mois a eu beaucoup de succès, a rassemblé des milliers de gens, j'en étais moi-même le premier ministre qui l'était, bien si de, à travers cette insurrection des consciences, c'est effectivement mettre en évidence et en valeur tout ce que fait la société civile pour anticiper sur un futur qui de toute façon s'imposera pour le vélo. Alors on dit, il va arriver, s'il va arriver, c'est pas. Déjà, de fait, il y a aujourd'hui, l'apocalypse pour certains n'est pas pour demain, elle est déjà aujourd'hui. Quand je vais dans le tiers-monde et que je vois des parents incapables de poser une assiette, un bout de pain, un peu de nourriture devant leurs enfants, ils sont déjà dans la détresse, c'est très souffrant de me prendre. Alors, les utopies et le laboratoire social ne suffira pas à changer la société. Et je dis souvent, vous pouvez manger mieux, recycler votre eau, vous chauffer sur l'air, et exploiter votre prochain. C'est pas incompatible. Pas croire, parler d'alternative, nous allons arriver à changer la société. La société ne pourra changer qu'à partir du moment où il y a ce changement de paradigme parmi dans la campagne électorale, qui met l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations, mais un humain sans, un humain qui va revoir son mode d'existence, non pas sur le patron de la création, parce qu'il y a un déséquilibre dans notre histoire, c'est la subordination du féminin vers la femme, subordination universelle, la moitié de l'humanité est brimée et subordonnée. Alors, évidemment, plus ou moins fort, globalement, c'est ça. Nous disposons des créatures comme nous voulons. Nous nous octroyons un droit absolu de créatures. On peut faire ce qu'on veut, les découper en morceaux, c'est le prétexte de la science, et en faire souffrir tout ce que l'on veut, impunément, ça n'est pas notre part. Ce n'est pas un droit. Nous n'avons pas ce droit-là. Et nous sommes dans une posture de toujours plus indéfinie, et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui envisager le futur sur la sobriété, c'est-à-dire la sobriété en tant qu'option sociale qui va permettre finalement d'épargner évidemment cette, cette boulimie de l'unité, cette boulimie qui détruit le monde pour instaurer de l'équité, pour instaurer de la loi. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont dans la surabondance et pas si joyeux que ça. Il y a comme un malaise, si vous voulez, dans les pays dits prospères, et c'est là qu'on trouve le plus de gens qui sont obligés de se prendre des drogues pour dormir, de prendre des tranquillisants, voire du suicide, etc. Et ça fait mal au cœur de voir que l'humain est atteint, malgré la surabondance qui devient contraire à son bonheur. Et pourquoi ? Parce que le bonheur, ça s'achète pas. Et on peut tout acheter sauf la joie d'exister. Et la joie d'exister, vous la trouvez dans les gens qui sont dans la précarité, mais vous ne la trouvez pas dans les sociétés prospères. Donc tout ça nous pousse à essayer d'imaginer un avenir, de nous poser la question qu'est-ce que nous voulons faire de la vie, de façon à ne pas se demander s'il existe une vie avant la mort. Parce qu'aujourd'hui, c'est après ça. Je dis qu'il y a une vie avant la mort. Donc nous avons à repenser le monde et sur la base de quelque chose qui va construire. Je vais parler bientôt même aux entrepreneurs de France, c'est-à-dire MEDEF qui m'a invité à parler. Et aujourd'hui, finalement, beaucoup de gens se posent la même, ceux qui ont réussi socialement, ils disent qu'ils ont échoué humainement. Je rencontre de plus en plus de jeunes qui rentrent aux écoles qui disent « Moi, je n'ai pas envie de réussir seulement une carrière, j'ai envie de réussir ma vie. » Et même si je gagne moins d'argent, je m'en fous. Je veux que ma vie ait du sens. Et là, ça donne de l'espoir à cette jeunesse qui finalement remet en question le modèle simplement économique pour dire « Il faut du sens à la vie, il faut un bonheur. Et j'ai le droit d'être heureux sur cette planète. » Donc tout ça, c'est là de quelque chose qui va se modifier. Et pour finir, en espérant pas vous avoir trop ennuyé, il y a une question fondamentale maintenant. C'est très curieux parce que je me sens très très jeune. C'est comme si je venais démarrer. Simplement que mon corps me rappelle quand même de temps en temps que je ne vois pas maintenant. Mais je le vois bien quand je travaille de. Ma terre, ma culture, etc. Bon, ça me rappelle quand même ça. Mon corps me rappelle une évidence. J'ai essayé de l'entretenir le mieux possible. Ils sont malades, ils ne sont pas, etc. Mais quand même. Et alors, il y a cette espèce d'élan permanent pour aller plus loin, pour réaliser, pour innover, avec des gens qui me font de plus en plus nombreux, qui me font l'honneur de m'accompagner, l'honneur de me soutenir, l'honneur. Là, je me suis vraiment gâté, privilégié à ce niveau-là. Mais malgré tout, on se pose la question de savoir exactement ce que je disais au début, par rapport à ce que je disais au début, à quoi sert le prix. Et si nous prenons objectivement notre avènement, nous sommes une catastrophe écologique majeure, et on se dit, bon, est-ce que nous sommes nés simplement pour consommer et détruire, ou est-ce que nous sommes nés pour autre chose? Et on se rapproche ça d'une anecdote vraie qui m'est arrivée dans les années 60. Nous venions d'acheter notre ferme, nous sommes dans une région qui est méditerranéenne, puisque des oliviers, moi-même j'en ai planté, je suis tout fier de faire mon huile maintenant, enfin bon, par moi n'est pas mon cousin, comme on dit. Et puis, nous sommes dans ce pays qui est beau, mais qui est froid sans être glacial. Il faut donc se changer. Alors, je me trouvais, comme nous avons fait ce retour à la Terre en 1961, en plein cœur des Trente Glorieuses, à l'époque, il n'y avait pas de... Si vous voulez, il fallait se chauffer, et pour se chauffer, on avait un petit peu de forêt. Et c'est dans cette forêt qu'on prélevait le bois. Pour prélever le bois, c'était laborieux parce qu'il fallait aller couper ça à la hache. C'était très difficile. Et un jour, c'était épuisant. Et un jour, je rencontre quelqu'un qui discutait dans une table à côté, et qui se plaignait aussi. Moi, je suis tout seul pour couper le bois. Tu te rends compte, c'est difficile. Je me tourne vers lui et je lui dis, mais moi aussi, est-ce que on ne pourrait pas s'associer? Vous venez m'aider à couper mon bois. Et je vais vous aider, voilà, appelle le roi. On passe la, le contrat, et puis ça se passe comme ça, ben, je vais l'aider à couper son bras pendant la semaine, et ensuite je vais l'aider pour m'aider à couper mon bras. Alors on travaille toute la journée, il n'y avait pas de tronçonneuse, il n'y avait pas de tout ça, et toute la journée nous travaillons, mais heureux. Et à la fin de la journée, ça achève, on est fatigué, le tas de bois bien rangé, bien coupé, ça vient avec simplement des instruments et des outils tout à fait élémentaires, et on est content de ce tas de bois, et la journée s'achève tout doucement. Et vous avez un temps, vous savez, du basculement entre le jour et la nuit, qui est extraordinaire. C'est un temps, pour moi, c'est un temps d'éternité. Tout s'est fait, les oiseaux ne chantent pas, tout est tranquille. Et à ce moment-là, il y a un coucher de soleil, il y a donc le coucher de soleil, et on voit le soleil rouge descendre tout doucement sur l'horizon. Magnifique. Et il se trouve que sur cette fresque extraordinaire, magnifique, il y avait encore quelque chose qui ajoutait à cette beauté, et qui, c'est qu'il y avait la silhouette d'un arbre, d'un grand arbre. Vraiment. Et donc, je regardais tout ça, dans ce silence, à la fois intérieur et extérieur, dans cette contemplation véritablement profonde, je regarde ce coucher de soleil, je regarde cet arbre, je regarde tout ça, et je suis heureux. Et je n'ose même pas parler. Mon ami est en train d'enregistrer des outils, et ça, il est intrigué, il regarde, il dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait, il voit comme ça, il évolue. Il se rapproche de moi, et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 terres. Donc, il est très dramatiquement obsédé. Il me dit, comment on regarde l'humanité, comment est-ce qu'on regarde la vie, quel est le rôle de l'être humain? Ben, le rôle de l'être humain, c'est d'aimer, c'est de prendre soin de la vie, de la terre. C'est ça son rôle. Et là, il atteint le sacré. Et là, il est religieux.